soir, on continue notre étude sur la première épître aux Corinthiens. Et c'est au chapitre 11. Alors, ce chapitre 11, vous vous rappelez, il a été divisé en deux parties principales. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En deux parties principales, donc la première partie concernait donc le rôle de la femme, mais par ricochet de l'homme aussi, dans l'Église, hein, et notamment lorsque l'Église est assemblée. Et la deuxième partie qui concernait le repas du Seigneur. Alors, comme c'était assez fini, assez profond, hein, on a donc fait dans nos premières études que la première partie. Et aujourd'hui, donc, nous commençons la deuxième partie sur le repas du Seigneur. Alors, les feux que je vous avais distribués dernièrement sont toujours valables, hein, mais j'ai repris la deuxième partie en rajoutant une partie pratique, donc, et j'ai retouché un peu les questions. Donc, si vous n'avez pas amené votre première feuille, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ça a été refait, donc je vais vous distribuer la deuxième feuille concernant l'étude de ce soir. Donc, je vais passer. Hein. Alors, vous allez voir que cette étude concernant le repas du Seigneur, je l'ai divisée en deux parties. Une partie concernant ce qu'on pourrait appeler la partie doctrinale, et une deuxième partie qui est la partie pratique sur des questions qu'on se pose souvent. Elle n'est pas exhaustive, hein, cette partie, ni la première ni la deuxième d'ailleurs, hein, parce qu'on peut toujours dire beaucoup de choses sur le repas du Seigneur, mais bon, comme on est limité de toute manière, il faut donc choisir les questions, les thèmes bien adaptés. Voilà, donc s'il y a d'autres questions qui viendront peut-être, on pourra en débattre, mais voilà les principales questions et les principales subdivisions de notre étude. Alors donc, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 17 à 34. Donc nous allons lire, comme d'habitude, si quelqu'un peut lire. Une ou plusieurs personnes, peu importe.
En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois un parti. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous.
Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'aussi il mange du pain et boive de la coupe. Et qu'ainsi, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.
Voilà. Alors donc, nous voyons encore dans ce que nous venons lire, hein, quelque chose d'assez curieux, très très curieux, parce que l'idée répandue généralement, c'est que l'Église primitive vivait dans l'euphorie du... ils attendaient le Seigneur, ils étaient frères et sœurs, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, on découvre, dans toutes cette lettre aux Corinthiens, mais notamment dans ce chapitre, nous découvrons que c'était pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ce qui se passait dans l'Église primitive. Donc j'ai divisé ce que nous venons de lire en trois parties. La première partie, nous allons voir ce qui se passait vraiment dans l'Église de Corinthe. Des divisions, des désordres, des scandales lors des agapes dans l'Église de Corinthe. Et ceci va du verset 17 jusqu'au verset 22. Alors, que se passait-il dans l'Église de Corinthe? Il faut savoir qu'au temps de l'Église primitive, les chrétiens se réunissaient régulièrement pour manger, hein, un peu comme nous faisons, mais beaucoup plus, ça résonne trop peut-être, mais beaucoup plus régulièrement que ça. Et ils mangeaient un repas qui était appelé agape. Alors agape, c'est un mot grec qui veut dire repas d'amour. Donc ils mangeaient un repas fraternel. Nous voyons par exemple, si on va dans Actes chapitre 2, verset 46. On peut lire Actes chapitre 2, verset 46.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Voilà. Et au chapitre 20, verset 7.
Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Verset 11.
Le verset 7, chapitre 20, verset 7.
Oui,
voilà. Alors, donc, une fois que le repas était terminé, il était de coutume de célébrer la Sainte Cène, la Cène du Seigneur. Alors, le mot Cène, ça vient du latin cena, qui veut dire repas du soir. Le repas du soir en français, ça se dit souper, c'est ça? Voilà. Donc, la cène veut dire souper. Donc, il y avait le repas normal, et à la fin, il y avait la cène. La cène instituée par le Seigneur. C'était un repas spécial, on va voir dans le détail, qui était institué par le Seigneur, donc un repas tout à fait à part, qui était totalement différent du repas normal. Mais à Corinthe, évidemment, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. On est habitué maintenant avec ces Corinthiens-là, parce que très rapidement, les chrétiens ne s'attendaient plus déjà pour manger ensemble les uns les autres. Alors il y avait des groupes, des divisions, des factions, si on peut dire comme ça. Il y avait les riches qui amenaient des victuailles, des choses abondantes, et ils commençaient à manger. Ils n'attendaient pas que les pauvres arrivent. Alors les pauvres, en général, c'était souvent des esclaves qui devaient d'abord servir leur maître. Et une fois que leur maître était servi, ils pouvaient venir à la grappe. Donc ils arrivaient parfois en retard. Et quand ils arrivaient, les gens avaient déjà commencé à manger. Alors les riches avaient commencé à manger, et enfin ils s'empiffraient pas mal. Et quand les pauvres arrivaient, au lieu de leur donner quelque chose, ils les laissaient avec leur faim, les pauvres, hein, ils avaient faim. Et alors, quand la fin du repas arrivait, et qu'on devait passer maintenant à la Sainte-Cène, les riches qui avaient beaucoup mangé, beaucoup bu, étaient souvent ivres au moment du repas du Seigneur, alors que les pauvres qui n'avaient pratiquement pas mangé grand-chose, ils avaient le ventre vide. Voilà donc la situation, le scandale qui était dans l'église de Corinthe, cette division sociale entre les riches et les pauvres, et les riches humiliaient leurs frères pauvres en agissant de la sorte. Et ce repas qui devait être un repas fraternel, hein, c'est un repas d'amour, mais il n'avait d'amour que le nom, en fin de compte. Hein, parce que c'est à peine imaginable, hein, vous imaginez un peu la scène, vraiment, au moment du repas du Seigneur, il y en a qui sont complètement sourds. Hein, c'est vraiment très très difficile à réaliser, et pourtant, c'était la réalité. Voilà ce qui se passait à l'église de Corinthe. Alors, informé de cette situation, l'apôtre Paul va réagir vigoureusement. Il va s'indigner contre ces pratiques qui consistaient à humilier les uns et que les autres mangeaient, les riches pouvaient manger à satiété, alors que les pauvres n'avaient rien. Alors, ce n'est pas que l'apôtre Paul voulait, enfin, on avait contre les riches, contre la richesse, non, c'est pas ça. Mais il en voulait à la méthode, à ce que faisaient les riches. Parce que ce qu'ils faisaient était vraiment honteux, c'était contre le, comment dire, l'amour fraternel, tel que le Seigneur le voulait. Donc l'apôtre Paul va s'indigner, il va leur dire aux riches, mais ayez au moins la délicatesse de manger chez vous d'abord. Et une fois que vous êtes rassasié, vous venez aux agapes, comme ça vous ne faites pas honte à vos frères qui n'ont rien. Et surtout, ben partagez. Partagez ce que vous amenez avec les autres. Pourquoi vous ne partagez pas? Et il va rappeler à tous que le repas du Seigneur, c'est quelque chose de très solennel, c'est quelque chose de très sérieux. Il est inadmissible qu'il se transforme vraiment en quelque chose de banal. Presque c'est une moquerie, en quelque sorte. Et donc l'apôtre va remettre un peu les pendules à l'heure en leur disant, attention, le repas du Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de très sérieux. Et tellement sérieux que examinez-vous vous-même et regardez ce qui se passe dans votre église. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses curieuses? Et donc, il y a toute une partie que l'apôtre va développer sur les châtiments. C'est vraiment des châtiments qui peuvent survenir à ceux qui méprisent le repas du Seigneur. Parce qu'il y a tout, c'est vraiment le centre de notre, on va dire, de l'œuvre du Seigneur, parce que la scène, c'est quand même un rappel de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est le centre de la croix, c'est l'œuvre de la croix, le rappel de Christ donnant sa vie pour nous. Et si nous méprisons le corps de Christ, nous méprisons tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc, il y a des conséquences qui sont très sérieuses, et les Corinthiens commençaient déjà à subir ces conséquences-là. Voilà ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Des conséquences très graves. Alors, depuis lors, les agapes ont été séparées de la Sainte-Cène. La Sainte-Cène ne succédait pas forcément à une agape, mais c'était vraiment séparé. Parce qu'il y avait des abus. Il était inadmissible que des gens arrivent ivres à la scène du Seigneur. Et donc la première question c'était ça, que se passait-il lors des agapes dans l'église de Corinthe? Voilà donc décrit en quelques lignes, en quelques mots, ce qui se passait à l'église de Corinthe. Et l'apôtre donc va rappeler aux Corinthiens ce qui va suivre, donc les versets 23 à 26. Est-ce qu'on peut relire les versets 26 à 23?
23-26.
Ah, non, 23-26. Oui, on peut toujours lire à l'envers, mais c'est pas très commode. 23-26.
En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Voilà la révélation que Paul a reçue du Seigneur lui-même. D'où la solennité de ce qu'il rappelle aux Corinthiens. Le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de banal. J'ai reçu une ordonnance de la part du Seigneur lui-même, une révélation. Alors, Paul ne l'a pas reçue de la part des autres apôtres. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris des autres apôtres. C'est vraiment une révélation directe du Seigneur à l'apôtre Paul. Et une révélation qui est évidemment en accord avec ce que le Seigneur a institué quand il a institué la Sainte Cène. Donc, nous voyons que la parole de Dieu ne se contredit pas, le Saint-Esprit, c'est vraiment l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas de contradiction entre ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul et ce qu'il a institué, la vérité qu'il a instituée auparavant. Donc, il va leur dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que voilà ce que le Seigneur a fait dans la nuit où il fut livré. Alors, la troisième question, dans cette révélation, il y a deux événements que commémore le repas du Seigneur. Quels sont les deux événements que commémore le repas du Seigneur? Alors, vous les avez au verset 25 et 26, 24 et, 20 et 25. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 24? Après avoir rendu grâce, le rompu dit, ceci est mon corps. Donc voilà la première révélation, le premier événement que commémore le repas du Seigneur, ceci est mon corps. Donc le corps brisé de notre Seigneur à la croix du calvaire. Le corps du Seigneur a été rompu. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Voilà le premier événement. Et le deuxième événement, c'est lequel? Voilà. À la fin du repas, il prit une coupe pour dire « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Une alliance que Dieu a conclue avec les hommes. Donc, dans un premier temps, le corps brisé de notre Seigneur, et dans un deuxième temps, cette alliance conclue par Dieu avec nous au moyen donc du sang versé de notre Seigneur. Et la deuxième partie de cette question, c'est: quelles sont les réalités exprimées par les chrétiens lors de la scène? Quelles sont les trois réalités exprimées par les chrétiens lors de la scène? Il y a trois réalités qui sont cachées dans cette révélation du Seigneur à l'apôtre Paul. Quelles sont ces trois réalités?
La mort.
La mort du Seigneur, donc c'est un événement qui appartient au passé. Ensuite, il y a un événement qui appartient au futur.
Son retour.
Le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. et un événement qui appartient au présent.
C'est cette présence.
Oui, cette présence du Seigneur parmi nous. Chaque fois que nous commémorons cet événement, évidemment, il y a la présence du Seigneur parmi nous. Donc, ça nous rappelle donc ce qui s'est passé dans le passé, ce qui va arriver dans le futur, le retour du Seigneur, et lorsque nous nous réunissons pour célébrer la Sainte Cène, c'est cette communion que nous avons entre nous, mais aussi entre nous et le Seigneur. Alors, il y a eu une polémique au cours des siècles à propos de ce que nous avons lu, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous ». Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Certains, théologiens, entre guillemets, ont dit qu'il faut prendre à la lettre le verbe « être ». C'est-à-dire, quand le Seigneur dit « ceci est mon corps », il faut le prendre de manière littérale. Et quand le Seigneur dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », il faut le prendre de manière littérale. En d'autres termes, lorsque nous rompons le pain, en fait, le pain n'a de pain que la forme. En réalité, c'est le corps du Seigneur lui-même que nous rompons. C'est-à-dire, nous refaisons le sacrifice de Christ à la croix. Et ce que nous mangeons, c'est véritablement le corps du Seigneur lui-même. Et lorsque nous partageons la coupe entre nous, cette coupe est véritablement, nous buvons véritablement le sang du Seigneur Jésus. Donc, le vin ou le jus de raisin n'en a que la forme. En réalité, c'est véritablement du sang humain que nous buvons. Alors, évidemment, ça ne peut pas tenir debout. Cette doctrine s'appelle la transubstantiation. C'est un mot assez savant. Alors, pourquoi ça ne tient pas debout? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Nous allons évoquer seulement quelques raisons pour lesquelles cette doctrine de la transubstantiation ne tient pas debout. La première remarque que nous pouvons faire, c'est que si vraiment le pain devient le corps du Seigneur, alors il faut appliquer la même chose à la coupe. C'est-à-dire, la coupe, quand il est dit cette coupe, est la nouvelle alliance. Ça veut dire que la nouvelle alliance, c'est vraiment la coupe. La coupe est véritablement la nouvelle alliance. Parce que ça n'a pas de sens. Une coupe ne peut pas être une alliance. La coupe n'est pas une alliance. Donc voilà la première remarque qu'on pourrait faire. Et la deuxième remarque qu'on pourrait faire, c'est que Christ, quand il a institué tout ceci, il était présent en chair et en os. Donc comment les disciples à l'époque pouvaient-ils manger le corps du Seigneur alors que le Seigneur lui-même était présent? Ça ne tient pas debout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, pour ces deux raisons au moins, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a d'autres raisons qu'on pourrait citer, mais bon, disons, rien que pour ces deux raisons-là, ce n'est pas possible d'admettre la transubstantiation. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'autres variantes de la transubstantiation, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Disons que, franchement, il faut prendre les choses d'une manière tout à fait réaliste. D'ailleurs, soit dit en passant, le fait de manger la chair humaine et de boire le sang humain pour un juif, c'était quelque chose d'impossible. C'est pas possible pour un juif d'accepter de manger de la chair humaine. C'est pas possible. L'idée va offusquer le juif. D'ailleurs, on le voit, dans Jean au chapitre 6, verset 35, qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 6, verset 35?
Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
Voilà. Alors, que veut dire manger le corps et boire le sang? Qu'est-ce qu'il veut dire d'après ce que nous venons de lire? Qu'est-ce que ça veut dire manger le corps et boire le sang?
C'est croire.
Oui, c'est simplement croire. C'est venir à Jésus et croire en lui. Voilà ce que signifie manger le corps et boire le sang. Le Seigneur lui-même, il explique. Regardez par exemple Genèse chapitre 9, verset 4. Genèse chapitre 9, verset 4, à propos de manger de la chair humaine et boire du sang humain.
Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang.
Voilà. Et Lévitique 3, 7, si quelqu'un peut lire Lévitique 3, 7.
S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel.
Je crois que je me suis trompé de référence. En fait, c'est dans le livre Lévitique où il est rappelé qu'on ne doit pas justement manger l'animal avec son sang. On ne doit pas boire le sang des animaux. Bon, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, pour un juif, ça aurait été quelque chose d'absolument offusquant de pouvoir manger de la chair humaine et boire du sang humain. Donc, ces choses-là ne peuvent pas être prises de manière littérale. Et c'est surtout l'Église romaine, l'Église catholique romaine, qui a défendu et qui a continué de défendre cette thèse de la transsubstantiation. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qu'on appelle la messe, quand le prêtre prend l'hostie et lève l'hostie pour la bénédiction, en réalité, en prononçant la bénédiction, le prêtre, en fait, en quelque sorte, il ordonne à cette hostie qui devient réellement le corps du Seigneur. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein? c'est quelque chose de terrible quand même. Donc, on ne peut pas admettre cette thèse-là. Alors, question numéro 4, il y a des expressions bibliques qui décrivent la Sainte Cène. Beaucoup d'expressions décrivent la Sainte Cène. Par exemple, la Sainte Cène est appelée dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 10, 21?
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
Voilà, donc la Sainte Cène est appelée aussi la table du Seigneur. Ensuite, dans 1 Corinthiens 11, 20,
donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur.
Voilà, donc le repas du Seigneur, voilà une deuxième appellation. Ensuite, l'acte 2, 42.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Voilà, donc c'est aussi appelé la fraction du pain. Ensuite, dans 1 Corinthiens 10, 16.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?
Donc, la communion au corps de Christ, la communion au sang de Christ. Alors, le mot communion vient du grec koinonia, qui veut dire donc cette relation intime, cette communion, cette relation intime qu'on a avec le Seigneur. Ensuite, 1 Corinthiens 10, 16, nous l'avons lu, donc la coupe de bénédiction aussi appelée. Et dans 1 Corinthiens 11, 24.
Et après avoir rendu grâce,
le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
Voilà, après avoir rendu grâce. Et rendre grâce en grec s'appelle eucharist. Donc c'est ce qui a donné le mot eucharistie. Eucharistie veut dire rendre grâce. Voilà. Donc, repas du Seigneur, la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la fraction du pain, la communion au corps de Christ, au sang, et la coupe de bénédiction et eucharistie. La Sainte Cène est appelée aussi une alliance, hein, l'alliance par le sang de Christ, donc on a vu 11:25. C'est aussi un mémorial, hein, faites ceci, donc c'est un mémorial, c'est une commémoration, faites ceci en mémoire de moi, et aussi une prédication, chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort du Seigneur, et le mot annoncer en grec, c'est proclamer publiquement. Hein. Donc c'est aussi une prédication de la croix. Voilà ce que, en tout cas, représente la Sainte Cène, comment est appelée la Sainte Cène dans la parole de Dieu. Alors, justement, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la fraction du pain, tout ceci nous ramène à cette nuit terrible où le Seigneur a été livré, où le Seigneur a mangé cette dernière Pâque avec ses disciples. Et il a pris donc ces éléments-là et de manière solennelle, il a institué la Sainte Cène. Et les Corinthiens avaient oublié tout ceci et méprisaient la table du Seigneur. Ils mangeaient et buvaient d'une manière totalement désinvolte. Les uns étaient ivres alors que les autres avaient faim. Et donc, il va donner cet avertissement solennel qui se trouve dans le chapitre 11, verset 27 à 34. Voici l'avertissement solennel, si quelqu'un peut relire les versets 27 à 34.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.
Voilà, ça fait froid dans le dos. Vous ne trouvez pas? Beaucoup de personnes ont pris la décision de ne pas prendre la Sainte Cène, justement, à cause de ce que nous venons de lire. Et est-ce que cela est juste devant Dieu? Est-ce que ça fait tellement peur, on a tellement peur de se lever pour prendre la Sainte Cène qu'on ne se lève plus? Parce que on a discerné quelque chose, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, est-ce que je ne serai pas malade? Est-ce que je ne serai pas infirme? Est-ce que je ne vais pas mourir si je prends la coupe, le pain et la coupe de manière indigne? Alors, il est bon maintenant de préciser ce que l'apôtre Paul entend par prendre les éléments d'une manière, prendre les éléments indignement. Alors, première compréhension, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui se lèvent pour prendre la Sainte Cène sont des personnes dignes?
Non.
Propre, nickel, non. Tout va bien.
Non.
Non, absolument pas, hein, évidemment. Absolument pas. En fait, l'apôtre ne dit pas, et c'est très important, il ne dit pas que le participant doit être digne, mais le participant doit prendre les éléments d'une manière digne. C'est pas du tout la même chose. En réalité, personne n'est digne de se lever. En tout cas, moi, si c'est ça, alors je ne prends plus la Sainte Cène. Si c'est vraiment qu'il faut être digne, qu'il faut être à la hauteur. Parce que dit Romains chapitre 3, verset 11 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 3, 11 à 12?
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Voilà, vous avez entendu, donc, personne n'est digne. Alors, ce n'est pas donc qu'il faut être digne, mais qu'il faut prendre d'une manière digne. Et n'oublions pas le contexte. Le contexte, ce sont les Corinthiens qui avaient tellement méprisé la table du Seigneur qu'ils venaient vraiment, qu'ils prenaient les éléments franchement, étant complètement sous, étant complètement ivre. Imaginez la scène, enfin, c'est quelque chose d'horrible quand on y pense. C'est donc prendre les choses d'une manière indigne, c'est-à-dire ne pas discerner le caractère sérieux, le caractère solennel, le caractère. C'est vraiment sur cette prédication de la croix que repose notre salut. Nous ne pouvons pas prendre les choses à la légère. Cela n'est pas possible. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas dignes de nous lever. Et justement, parce que nous ne sommes pas dignes de nous lever, que nous sommes dignes de prendre la table du Seigneur. Parce que la table du Seigneur est pour les personnes qui reconnaissent la solennité de ce que le Seigneur a fait pour eux et qui disent: Seigneur, je ne suis pas digne de me lever, je ne suis pas digne de participer à ce repas, mais j'accepte, je te fais confiance, tu as réalisé ce que moi je ne peux pas réaliser, alors je me confie dans l'œuvre que tu as réalisée et sur cette confiance, je peux me lever. C'est une confiance que nous faisons au Seigneur. Nous lui faisons confiance dans l'œuvre du Seigneur. Parce que malgré tout, si vraiment nous méprisons l'œuvre de Christ à la croix, alors comme dit l'Épître aux Hébreux, hein, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente d'un jugement qui va dévorer les rebelles. Et frères et sœurs, ne prenons pas l'œuvre de la croix à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. C'est tellement sérieux que nous devons nous repentir. Hein? Comme on a entendu dimanche, cet appel à la repentance. Mais justement parce que nous nous repentons, que nous pouvons nous lever pour prendre la scène du Seigneur. Et alors, une petite anecdote que j'ai lue. Il y avait dans une église, donc pendant le moment de la Sainte Cène, donc des frères qui distribuaient la Sainte Cène, et il y avait là une dame qui pleurait toutes les larmes de son corps, et la personne qui distribuait donc la Sainte Cène est arrivée devant la dame, et la dame a fait un signe de la main. Et donc, le frère est passé, hein. Et puis là, il y avait le pasteur qui a vu la scène, qui est venu et qui a pris la coupe de la main de celui qui distribuait et qui l'a donnée à la dame, dit: Madame, justement, vous êtes brisée par le poids de votre péché, vous reconnaissez le poids de votre péché, justement, la scène est pour vous, vous pouvez vous lever pour participer à la Sainte Cène. Et là, la dame a rayonné de joie, c'était vraiment quelque chose de formidable de voir cette dame qui se levait pour prendre la Sainte Cène. Voilà. Donc c'est vraiment pour les personnes qui se sentent indignes. Alors, voilà, donc, en quelques mots, la partie, on va dire, qu'on rappelle, d'ailleurs, dimanche après dimanche, hein, cette partie, on va dire, doctrinale concernant la Sainte Cène. Mais au cours des siècles, il y a eu tellement de disputes, d'abus, de confusion à propos de la Sainte Cène, que beaucoup de questions se sont posées. Et j'aurais relevé quelques questions qui se sont posées donc et qui continuent à se poser jusqu'à nous concernant la Sainte Cène. Et ce sont ces questions-là que maintenant nous allons voir ensemble. Cette partie que j'ai donc intitulée « Quelques questions pratique. Alors, évidemment, l'apôtre Paul, ni les autres apôtres, ni le Seigneur lui-même, n'a tout dit, tout expliqué, tout cadenassé, tout réglé concernant le repas du Seigneur. Il y a encore des choses qui sont laissées un tout petit peu à l'appréciation des disciples, à l'appréciation donc des églises. Et que faire? Que faire lorsqu'on tombe sur quelque chose qui n'a pas été d'une manière claire, nette, précise, qui n'a pas été formulé ni par les apôtres, ni par le Seigneur lui-même? D'abord, une remarque très importante concernant les écrits apostoliques. Les écrits apostoliques, on peut les classer en deux catégories. La première catégorie, ce sont les instructions qui sont clairement expliquées. Et la Bible dit tout ce que les apôtres ont dit, ont formulé clairement, tout ce qu'ils ont dit, nous devons le pratiquer. Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens chapitre 2, verset 20 ?
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Voilà. Tout ce que les apôtres ont enseigné, nous sommes tenus de le pratiquer, c'est la parole de Dieu. Ensuite, si nous arrivons sur des détails qui ne sont pas précisés dans la parole de Dieu, alors là, nous devons observer deux principes. Le premier principe, c'est que là où des directives précises sur un détail pratique font défaut, nous devons en priorité, nous baser autant que possible sur ce qu'enseigne l'ensemble de la parole de Dieu sur le sujet. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Et le cas échéant, parce qu'il y a vraiment des questions tellement bien, bien précises qu'on ne sait pas bien discerner, alors il y a un autre principe, c'est que quoi qu'il en soit, le symbole ne doit pas prendre le pas sur la réalité qu'il représente. Parce que, hélas, au cours des siècles, le symbole a pris le pas sur la réalité qu'il représente. Et beaucoup d'églises font l'amalgame entre le symbole et ce qu'il représente. Et le symbole est devenu tellement important que finalement, il cache, il détruit, il dénature ce qu'il représente réellement. Alors nous allons prendre les questions les unes après les autres. Première question. Qui est invité à la table du Seigneur? De manière évidente, d'après vous, qui est invité?
Ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus et qui ont...
Voilà, c'est évidemment ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Ceux qui peuvent discerner le corps de Christ, parce que nous l'avons lu, ceux qui discernent. Regardez par exemple Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Est-ce que quelqu'un peut lire Actes 2, 41 et 42?
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Voilà, donc ce sont les disciples. Ensuite, il est évidemment recommandé à chacun des participants de s'examiner lui-même. Nous l'avons lu dans Corinthiens 11, 27, 29. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc, un non-chrétien, un non-converti ne peut pas s'examiner lui-même, par définition. Donc, ce sont les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les croyants. Alors, mais les croyants, est-ce que ce sont les croyants qui sont... c'est une question qui va revenir par la suite. N'allons pas trop vite. Alors, la deuxième question, est-ce qu'il faut être baptisé pour être admis à la table du Seigneur? Faut-il être baptisé? Nous disons chaque dimanche de ceux qui se lèvent, etc., qui sont passés par les eaux du baptême. Est-ce qu'il faut être baptisé? Alors, ce n'est pas dit de manière explicite. Ça fait partie de ces choses qui ne sont pas cadrées. Mais, regardez bien, logiquement, quelqu'un qui a accepté le Seigneur dans son cœur, il doit obéir aux ordonnances du Seigneur. Et quelles sont les ordonnances du Seigneur? Le baptême, la Sainte-Cène, aller faire de toutes les nations des disciples, etc. Donc, l'ordonnance de la Sainte-Cène, c'est une ordonnance. C'est un commandement. Quelqu'un qui serait converti et qui refuserait de se faire baptiser, il y a un problème. Quelqu'un qui serait converti et qui refuserait de participer à la table du Seigneur, il y a un problème. Oui. Donc, logiquement, on doit passer par les eaux du baptême qui est une ordonnance du Seigneur aussi bien que la Sainte-Cène. Mais regardez une autre raison. Regardez dans Actes chapitre 2, enfin relisons Actes chapitre 2, verset 41-42. Relisons-le. Hein.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Oui, vas-y.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Quand est-ce que la fraction du pain est venue?
Après le baptême.
Après avoir été baptisé. Donc, au vu de ce concerne la parole de Dieu et d'une manière tout à fait logique, nous devons passer par les eaux du baptême. Mais il faut néanmoins reconnaître que ce n'est pas dit explicitement. C'est simplement parce que nous comprenons qu'il ne peut pas en être autrement. Voilà. Le baptême n'est pas donc clairement, explicitement dit que ceux qui doivent participer à la Sainte-Cène doivent passer par les eaux du baptême. C'est simplement parce que c'est logique et c'est conforme aux ordonnances du Seigneur. La troisième question. Faut-il être membre de l'église locale? S'il y a quelqu'un qui arrive d'une autre église et qui vient dans notre église, par exemple, est-ce qu'il peut participer à la Sainte-Cène?
Ben, oui.
Faut-il être membre de l'église locale? Et quelqu'un même qui serait parti de notre église, mais qui n'est pas encore inscrit dans nos registres, est-ce qu'il pourrait participer à la Sainte-Cène?
Oui.
Merci.
Oui, parce que pour une raison, là aussi tout à fait simple, c'est la table du 316 boulevard de la Paix.
Non,
c'est la table du
Seigneur.
Et la table du Seigneur est partout où son corps s'est réuni. Donc, il est complètement farfelu, je dirais, hein, d'imposer aux gens d'être membres d'une église, de l'église locale, d'être inscrit dans les registres de l'église. Et puis une autre raison, c'est que l'apôtre dit que chacun s'examine lui-même. Ce n'est pas à l'église de sonder le cœur de celui qui se lève pour participer. Ce n'est pas ça qui est dit ici. Mais c'est la personne qui doit elle-même s'examiner pour savoir si elle peut participer à la table du Seigneur ou non. L'Église pourrait intervenir dans un tout autre domaine que nous allons voir tout à l'heure. Mais dans le domaine de sonder les cœurs et les reins, pour savoir si la personne est digne ou indigne, l'Église ne peut pas intervenir. Mais nous allons voir qu'elle peut intervenir dans un autre domaine. Donc, faut-il faire partie de l'église locale? Évidemment, non. Est-ce que quelqu'un d'une église qui ne peut pas prendre la Sainte-Cène quelque part peut aller la prendre ailleurs? Parce que quelqu'un pourrait dire, non, là, dans cette église, je suis en bise-bise avec tel frère, je ne peux pas me lever pour prendre la Sainte Cène, je vais aller prendre la Sainte Cène dans une autre église.
C'est un cas de conscience envers sa conscience.
Voilà, donc là, on revient au même, c'est la table du Seigneur, elle est partout où les chrétiens se réunissent. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas te lever ici que tu peux te lever ailleurs. Est-ce qu'il faut des lettres de recommandation pour une personne qui arrive dans une église pour que la personne soit admise à la table du Seigneur? Est-ce qu'il faut des lettres de recommandation? Est-ce que nous devons dire, monsieur, est-ce que vous avez une lettre qui nous recommande votre moralité ou votre... Évidemment non, puisque c'est la personne qui doit s'examiner elle-même. Il n'y a pas besoin de lettre de recommandation. Voilà. Donc nous ne donnons pas pour les frères et sœurs qui vont ailleurs dans d'autres églises, qui vont en vacances par exemple, nous ne leur donnons pas de lettre de recommandation pour qu'ils puissent participer à la Sainte Cène dans telle ou telle autre église. Alors, qui doit s'abstenir de la table du Seigneur? Qu'est-ce qui doit s'abstenir néanmoins?
Le non-repentant.
Alors l'incroyant, évidemment, hein, l'incroyant. Puisqu'on a dit que pour s'examiner, il faut avoir justement cette conscience, ce Saint-Esprit en nous qui nous permet de nous examiner. Donc les incroyants ne peuvent pas participer à la table du Seigneur, mais aussi les croyants, et c'est là que je disais que l'Église peut intervenir dans un autre domaine, c'est les croyants qui vivent dans le péché, un péché avéré, et un péché qui a été, disons, signalé par l'Église, c'est-à-dire les anciens, etc., qui sont partis voir le frère ou la sœur, qui lui ont signifié que ce que le frère ou la sœur faisait déshonorait le Seigneur, déshonorait tout le corps de Christ, et donc la personne devait se repentir, etc., et que la personne refuse. Donc, c'est les frères et sœurs, ce que disent les frères et sœurs. Alors là, à ce moment-là, il y a vraiment un gros problème. Regardez ce que dit, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 et 13. 11 à 13. 1 Corinthiens 5, 11 à 13.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous.
Voilà. Donc, il y a quand même, malheureusement, un frère, une sœur qui est tombée dans le péché, dans l'impudicité, etc. De ce qu'on a vu dimanche, hein, finalement, ce que Stéphane nous a dit dimanche, hein, et qui refuse donc ce que disent les frères et sœurs qui sont allés le voir. Et donc là, il y a ce qu'on appelle la discipline de l'Église. Cette personne-là ne peut pas être admise, est interdite de Sainte Cène. Mais c'est l'Église, c'est-à-dire que c'est le corps des anciens. Ce n'est pas, disons, de manière individuelle. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller voir quelqu'un et lui dire, si, je pourrais lui donner des conseils, mais je ne peux pas lui dire, ça y est, tu ne peux pas participer. Je peux le dire, fais attention parce que, etc. Je peux l'inciter fortement, mais la décision définitive revient à toute l'Église. À toute l'Église. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les croyants qui vivent dans le péché. Alors on peut peut-être prendre une autre question, oui. Je vois qu'on ne pourra pas finir les questions.
On avait prévu. Donc,
c'était prévu dès le départ, hein. Mais ce sont des questions importantes sur lesquelles nous allons revenir. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question, quoi qu'il ne reste plus que 2 minutes. Qu'est-ce que vous pensez, on peut la prendre ou pas?
Oui.
Oui, on peut la prendre. Bon, allez. On la prend comme ça la prochaine fois, on aura un peu plus de temps pour discuter sur le reste. Alors, qui peut administrer la Sainte Seine? Qui peut administrer la Sainte Seine? Alors, vous avez remarqué, évidemment, que dans notre Église, ce sont les hommes qui distribuent la Sainte Seine. Alors, nulle part dans la parole de Dieu, il n'est fait mention de prêtres ou d'un corps spécial de pasteurs qui sont chargés d'officier, chargés de distribuer la Sainte Seine. Ce n'est dit nulle part. La Seine est un service de commémoration qui est confié à tout le peuple de Dieu. Les chrétiens forment un peuple de sacrificateurs qui se ressemblent pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tout chrétien, homme ou femme, est sacrificateur de Dieu. Et donc, si on prend les choses telles qu'elles, tout le peuple de Dieu peut officier pour la Sainte Seine. Mais, et c'est là où nous avons dit qu'il faut prendre ce que dit l'ensemble de la parole de Dieu. Mais il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Et voici ces restrictions. Voici ces restrictions. D'abord, l'origine de la Sainte Seine. Quand est-ce que le Seigneur a institué la Sainte Seine? Au cours de quel repas? Le dernier repas, mais c'était pour célébrer quoi?
La Pâque.
Le repas à la Sainte Seine est intimement lié à la Pâque. D'ailleurs, la Sainte Seine, c'est ce qu'on appelle un antitype. Le repas pascal est le type, et la Sainte Seine est la réalité, l'antitype. Donc, les deux événements sont intimement liés. Et qui est-ce qui était chargé d'officier pendant le repas de la Pâque? Qui est-ce qui officiait? Qui est-ce qui présidait au repas de la Pâque? Dans le peuple juif, d'une manière générale.
Le père de famille.
Le père de famille seul était habilité à officier. C'était le père de famille. Or, dans l'Église, l'apôtre Paul d'ailleurs va rappeler une chose très importante, c'est que l'homme, et il va le dire dans 1 Timothée 2.12, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Timothée 2.12, chapitre 2, versets 12 à 14?
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression.
L'apôtre Paul va rappeler quelque chose de très important qu'on a vu la dernière fois, hein, dans notre dernière étude biblique, c'est que à cause de la chronologie de la création, l'homme a un droit qu'on appelle le droit d'aînesse. L'homme a été créé avant Ève, avant la femme. Il y a un droit d'aînesse. Et justement, celui qui officiait pendant le repas pascal, c'est celui qui avait, entre guillemets, le droit d'aînesse. Et je rappelle, hein, le droit d'aînesse, c'est quoi, hein? Alors, je suis allé voir un tout petit peu, et le droit d'aînesse, en réalité, voilà. Le droit d'aînesse, droit particulier ou privilège considéré comme propriété exclusive du premier-né d'une famille. Le fils aîné hérité d'ordinaire le rang, la situation et les prérogatives de son père. Il devenait chef de la famille ou chef de la tribu. Et donc, par rapport au repas pascal, c'est évidemment le chef de famille, donc le père, mais le cas échéant, celui qui avait le droit d'aînesse. Et l'homme, dans le rôle qui lui a été assigné par Dieu, l'homme a le droit d'aînesse. Je suis désolé, mesdames, mais c'est l'homme qui a le droit d'aînesse. C'est l'homme qui a le droit. Donc voilà un premier argument.
Bon courage, les gars.
Oui. Bon courage. Bon, on pourrait épiloguer sur le mot silence. On pourrait épiloguer sur le silence de la femme, entre guillemets, c'est pas une très bonne traduction parce que c'est pas le silence bouche cousue hein, qui est mentionné ici. En réalité, le mot traduit par silence veut dire tranquille, paisible. D'ailleurs, c'est ce que la version Semeur. C'est ce que dit la version Semeur. Hein. C'est pas que la femme doit demeurer dans le silence, mais elle doit avoir une attitude paisible, paisible, c'est-à-dire qui ne discutaille pas à gauche et à droite. Voilà. Et ensuite, alors, d'après ce que nous comprenons de l'ensemble de la parole de Dieu, à l'homme a été confié le ministère d'autorité de par son droit d'aînesse et d'enseignement. Autorité et enseignement dans l'Église, surtout quand l'Église est réunie en assemblée, cela est confié aux hommes. Il y a plein d'autres versets qu'on pourrait donner, hein, mais cela est confié aux hommes. Par exemple, 1 Timothée, bon, on a lu 1 Corinthiens 11, 3, 15, 1 Corinthiens 14, 34, 35, etc., etc. L'autorité, l'enseignement de la parole de Dieu, notamment lorsque toute l'assemblée est réunie, est confiée à l'homme. Et la Sainte Cène, c'est quoi? La Sainte Cène, c'est le point central du culte. Hein. Le culte, nous, on voit que dans le culte, ah oui, il y a le message et tout ça, il y a les prières. Bon, c'est vrai, tout ça fait partie du culte. Mais en réalité, le point central, c'est véritablement la Sainte Cène. C'est la Sainte Cène qui prend le centre du culte. Donc cela est confié aux hommes, sauf, évidemment, et comme dans toute chose d'ailleurs concernant ce qui est confié aux hommes, sauf quand il n'y a pas d'homme qui se lève pour officier. Et il y a effectivement des églises où il n'y a pas ou très peu d'hommes, et ceux qui sont ne veulent rien faire. Il n'y a que des femmes. Et dans ces églises-là, comment voulez-vous célébrer la Sainte Cène? Ce sont les femmes qui officient.
Oui, je pense que c'est un mot.
Je peux poser une question?
Oui.
La Sainte Cène, nous ici, à l'église, on fait tous les dimanches.
Oui.
Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible combien de fois on...
Ah, mais la question, tu vas très très vite. Très vite, parce que ça fait partie des questions. Tu vas très très vite, Anna.
Il faut que tu reviennes, mardi.
Tu vas très très vite. Alors, donc, je finis ce que j'étais en train de dire. Hein. Donc, en fait, la Sainte Cène est une prédication de la croix, c'est le point central. Est-ce que vous savez que c'est l'un des quatre piliers de la vie d'Église? Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les prières et la fraction du pain. C'est un des quatre piliers de la vie d'Église. Et donc, c'est un ministère vraiment d'autorité. Et c'est pour cela... que cela est confié aux hommes. Ah. Et on avait dit la dernière fois que ce n'est pas parce que quelque chose vous est confié que vous êtes le plus intelligent, le plus sage, le plus fort, le plus ceci, le plus... Non, mais pas du tout. C'est juste une question de rôle. Et même dans les hommes, tous les hommes ne peuvent pas faire quelque chose. Il y a des hommes qui ne sont pas éligibles pour faire tel ou tel ministère, malgré le fait que c'est ouvert aux hommes. Par exemple, tous les hommes ne peuvent pas être anciens. Et il y a des restrictions. Il y a des règles très précises pour être ancien. Homme que vous soyez, quoique qualifié que vous soyez, mais vous êtes disqualifié parce que vous ne remplissez pas tel ou tel critère pour devenir ancien, par exemple. Mais je pourrais prendre n'importe quoi. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut s'offusquer, qu'il faut dire, ah oui, mais moi, pourquoi on me néglige, pourquoi j'ai un tout petit rôle, je ne peux pas officier à la Sainte-Seine, je ne peux pas... Non, mais pas du tout. Dans le Seigneur, ce qui est le plus important n'est pas ce qui est le plus voyant. Ce n'est pas ce qu'on voit le plus, c'est pas ce qui... Ben, ça a été même dit dimanche, hein, ceux qui prêchent, etc. Ils ont peut-être même à cause de cela, comme tu as dit, Sylvia, bon courage les gars, hein, à cause de cela, peut-être qu'ils ont plus de comptes à rendre et peut-être plus de... voilà, ils seront peut-être, entre guillemets, jugés plus sévèrement lors des récompenses au tribunal de Christ. Donc, ne nous envions pas les uns les autres. Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Non, il s'est humilié lui-même. Et sincèrement, l'obéissance, l'humiliation, etc., tout ça, ce sont des qualités divines. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de complexe à avoir parce que je suis une femme et que je n'ai pas le droit d'aînesse. Et que je dois disputer ce droit d'aînesse au gars. Non. Dans l'Église, nous devons tous être dans la paix, paisible, chacun dans son rôle. Même si je dois simplement pousser le balai dans la semaine, ben c'est mon rôle. C'est mon rôle et le Seigneur me donnera peut-être une récompense plus grande que celui qui prêche tous les dimanches au pupitre là-bas. Voilà. Donc, pour terminer, quelques réflexions. Nous allons continuer la prochaine fois sur d'autres questions, dont celle que Anna a posée, plus d'autres. Voilà. D'accord. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et merci, Josias, pour cette possibilité que tu m'as laissée de pouvoir. Parce que je me disais, alors, je me disais même une demi-heure pour la partie doctrinale, une demi-heure pour la partie pratique. Et voilà, donc il fallait pouvoir très très vite. Mais merci, merci à nos anciens, vraiment à tous les dix, à vous tous, à vous toutes. Ne vous sentez pas négligés, parce que à vos yeux, vous occupez un petit, entre guillemets, ministère. Non. Voilà, est-ce que quelqu'un peut terminer par la prière?
Merci Seigneur pour ces moments que nous pouvons partager ensemble dans la commune. Que ta parole soit toujours agissante dans nos cœurs et que nous sachions non seulement l'entendre, mais aussi l'appliquer et la mettre en pratique dans nos vies. Je te remercie pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ensemble. Je te remercie pour la facilité avec laquelle nous pouvons le faire dans notre pays encore. Oui. On te demande de nous bénir, mais de bénir aussi tous ceux qui n'étaient pas avec nous ce soir, oui. Que tu leur fasses du bien aussi de leur côté. Oui. On se passe entre tes mains pour la fin de cette soirée et on fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.